Émile Gaboriau, Les cotillons célèbres. Les femmes de la Régence. Madame d'Argenton, la marquise de Parabère. Un abîme sépare les deux règnes si différents de Louis XIV et de Louis XV, un abîme ou un cloaque, la Régence. Il fallait une transition. Philippe d'Orléans est le trait d'union qui relie ces deux rois, contraste vivant. Louis XIV avait conduit la monarchie à l'abîme, Louis XV l'a conduite à l'égout, il verse dans la boue le char de la royauté. Pour régner, il fallait au grand roi les enivrements de son Olympe de Versailles, les pompes d'une apothéose de tous les instants. Plus modeste dans ses goûts, le bien-aimé ne se sent à l'aise que dans les petits appartements, et son sanctuaire d'élection sera le boudoir d'une courtisane. À tort, cependant, on imputerait à Philippe d'avoir préparé le règne de Louis XV. Le régent, nous ne parlons ici que de l'homme d'État, fut la première victime de la politique de Louis XIV. Il dut payer les frais de l'apothéose. Pour tout héritage à recueillir, sans bénéfice d'inventaire, le grand roi laissait la France saccagée, ruinée, ensanglantée et 2,6 milliards de dettes. Une catastrophe était inévitable. Le régent eut le mérite de la retarder. On lui jette à la face cette grande duperie du système, mais il n'avait pas à choisir. Saint-Simon lui conseillait une banqueroute pure et simple. Il préféra le système de l'eau, qui, du moins, semblait sauver les apparences, et la banque de l'aventurier avait encore plus de chances que les projets des frères Paris. La débâcle des mœurs n'est pas plus le fait du régent que la débâcle des finances. Après avoir, 30 ans durant, donné au monde l'étrange spectacle d'un roi de France vivant au milieu de sa cour comme un sultan au fond de son sérail, après avoir glorifié l'adultère et lâché la bride à toutes les passions, Louis XIV crut pouvoir, du jour au lendemain, réformer les mœurs dépravées par son exemple. Étrange erreur! Parce qu'il se convertissait dans les bras de Madame de Maintenon, il crut que toute la cour allait le suivre sérieusement dans cette voie nouvelle et se convertir aussi. En effet, tous les courtisans prirent le masque de la vertu. Mais sous ce voile de triste austérité qui ravissait le vieux monarque, la corruption fit encore des progrès. On s'en aperçoit à la mort de Louis XIV. Tous les masques tombent. La réaction arrive, d'autant plus furieuse que la contrainte a été plus grande. Chacun semble vouloir se dédommager. On avait été gêné, on ne se gêne plus. La licence devient effroyable, les désordres insensés. Il semble que tous les liens qui retiennent la société sont prêts de se rompre. Plus de morale, plus de retenue. On n'a qu'une hypocrisie, celle du vice. Rien ne surnage dans ce grand naufrage des mœurs, toute la noblesse se donne la main pour cette ronde infernale, la famille même ne subsiste plus, le mariage est ridiculisé, la fidélité conjugale bafouée, les grands seigneurs prennent leurs maîtresses au coin des rues et les grandes dames, ouvrant leur lit à la populace, se font gloire d'y faire passer tout Paris. Le régent, malheureusement, suivait l'exemple général, mais au moins ne songea-t-il jamais à se faire honneur de ses désordres. Il sut faire deux parts bien distinctes de sa vie. Il donnait le jour aux affaires, la nuit à la débauche, et jamais la nuit n'empiéta sur le jour, c'est-à-dire que jamais aucune de ses maîtresses n'influença sa politique. Roués et roués, convives de ses soupers, favoris et maîtresses n'obtinrent jamais le moindre rôle politique. Il détestait les hommes qui se grisaient à demi et les femmes qui parlaient d'affaires. Ni les uns ni les autres ne purent jamais lui tirer un secret d'État. « Je ne donne point d'audience sur l'oreiller, » disait-il à une belle dame qui s'était avisée de lui parler des affaires d'Espagne. Une autre fois, il conduisait devant une glace une de ses maîtresses qui avait voulu essayer de causer politique. « Comment une si jolie bouche, lui dit-il, peut-elle prononcer d'aussi vilains mots ?» Aussi, aucune des femmes aimées du régent n'appartient à l'histoire. Elles dominent l'homme privé, mais leur pouvoir s'arrête à l'homme d'État. Tout au plus sont-elles des ressorts de la chronique. Elles restent dans le huis clos des petits appartements et rien ne signale dans les affaires le passage de ses favorites d'un jour. À part la vie privée, et il n'en est pas pour les gouvernants, le duc d'Orléans tient une place honorable dans l'histoire. Et quand Louis XV, devenu homme et roi, se rappela son enfance chétive et souffreteuse, grande dut être sa reconnaissance pour le tuteur, pour l'oncle qui, en dépit de la nature, l'avait rendu à la vie et au trône. Peu d'hommes, cependant, ont été plus indignement calomniés que Philippe d'Orléans. Il n'est pas de crime dont on ne l'ait accusé, de dépravation qu'on ne lui reproche, de forfait qui ne semble naturel venant de lui. Ce devait être sa destinée. Et il passa la moitié de sa vie à essayer de démontrer l'insigne fausseté des soupçons atroces qui pesaient sur lui. Dans les dernières années de Louis XIV, n'avait-on pas voulu voir en lui l'auteur de ces morts mystérieuses qui décimaient la famille royale? À la mort de Louis XIV, lorsque le Parlement eut cassé le testament qui léguait la régence au duc du Maine, le bâtard favori de Madame de Maintenon, lorsque Philippe d'Orléans eut pris la direction des affaires, on essaya de faire revivre ses accusations insensées et Lagrange Chancel, le poète des haines et des vengeances de la petite cour de Sceaux, adresse au jeune roi sa première philippique. Royal enfant, jeune monarque, ce coup a réglé ton destin. Pour lui, l'inévitable parc un jour te fera son butin. Tant qu'on te verra sans défense, dans une assez paisible enfance, on laissera couler les jours. Mais quand, par le secours de l'âge, tes yeux s'ouvriront davantage, on les fermera pour toujours. N'est-il pas temps de le dire? Si jamais une main versa le poison aux héritiers légitimes du trône de Louis XIV, ce n'est assurément pas celle du duc d'Orléans. Le régent, ainsi que le disait Louis XIV, ne fut qu'un fanfaron de vice. Homme ennuyé avant tout, peut-être avait-il toutes les dépravations, mais il était incapable d'un crime, et tant qu'il eut la toute-puissance, on ne peut lui reprocher une cruauté. Il versa des larmes le jour où l'on exécutait ceux qui avaient comploté sa mort, et il les eut graciés sans l'inflexible résistance de Dubois. Monsieur le duc d'Orléans, dit Saint-Simon, était de taille médiocre au plus, fort, plein sans être gros, l'air et le port aisé et fort noble, le visage large, agréable, fort haut en couleur, le poil noir et la perruque de même. Quoiqu'il eût médiocrement réussi à l'Académie, il avait dans le visage, dans le geste, dans toutes ses manières, une grâce infinie et si naturelle qu'elle venait jusqu'à ses moindres actions. Il était doux, accueillant, ouvert, d'un accès facile et charmant, le son de la voix agréable et un don de la parole qui lui était naturel en quelque genre que ce pût être. Il excellait à parler sur le champ et en justesse et en vivacité, soit de bons mots, soit de réparties. Tel était ce prince qui avait toutes les grâces et tous les défauts de la faiblesse. On déplore ses déportements, on maudit ses désordres, et cependant, on ne peut se défendre d'une certaine sympathie pour lui. Élevé par un précepteur profondément corrompu, et dont l'occupation fut d'inoculer tous les vices à son élève, Philippe commença de bonne heure ses fredaines amoureuses. Chez les âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il n'avait pas encore 13 ans lorsqu'une dame de qualité s'avisa de faire son éducation. La leçon profita et, dès l'année suivante, il eut un enfant de la petite Léonore, fille du concierge du garde-meuble du Palais-Royal. À dater de ce moment, on suit dans les mémoires de Madame, mère du régent, toutes les passions de son fils. Elle semble déplorer ses égarements, mais elle les enregistre avec une scrupuleuse exactitude et même une certaine complaisance. « Mon fils, dit-elle, n'a pas du tout les manières propres à se faire aimer. Il est incapable de ressentir une passion et d'avoir longtemps de l'attachement pour la même personne. D'un autre côté, ses manières ne sont pas assez polies et assez séduisantes pour qu'il prétende à se faire aimer. Tout le monde ne lui plaît pas. Le grand air lui convient moins que l'air déhanché et dégingandé comme celui des danseuses de l'opéra. J'en ris souvent avec lui. Mon fils n'est pas délicat. Pourvu que les dames soient de bonne humeur, qu'elles boivent et mangent goulûment et qu'elles soient fraîches, elles n'ont même pas besoin d'avoir de la beauté. Madame, on le voit, semble prendre assez allègrement son parti des goûts de son fils. Il n'est qu'une femme qu'elle ne lui pardonne pas, sa femme légitime. On sait que, le jour où le duc d'Orléans, qui épousait malgré lui mademoiselle de Blois, fille légitimée du roi et de madame de Montespan, vint annoncer ce mariage à sa mère, elle répondit par un soufflet. La duchesse d'Orléans tient une fort petite place dans la vie de son mari. « Peu m'importe qu'il m'aime ou non, avait-elle dit, pourvu qu'il m'épouse. » Son désir fut exaucé. Le duc d'Orléans, lorsqu'il lui parlait, l'appelait Madame Lucifer, et elle convenait que ce nom ne lui déplaisait pas. Mais revenons au jeune duc d'Orléans. On comprend qu'avec ses théories en amour, il eut bientôt nombre de noms sur sa liste. D'ailleurs, il s'adressait où il savait bien ne pas devoir être repoussé. Aussi, le mot de conquête que Madame emploie est-il une insigne flatterie. C'est au théâtre que le duc d'Orléans alla chercher ses premières maîtresses. La Grandval, comédienne, disent les mémoires de Maurepas, succéda à Léonore, mais on s'opposa à cette intrigue parce qu'on trouvait cette fille trop vieille et trop corrompue pour lui. Une actrice charmante, arrière-petite-fille de la Champmeslé, Ernestine Antoinette Charlotte Desmar, prit la place de la Grandval. Elle ne la garda pas longtemps, et pourtant cet amour de comédie eut 4 ou 5 rechutes. Madame signale cette nouvelle conquête. « Mon fils a eu de la Desmar une petite fille. Elle aurait bien voulu lui mettre sur le corps un autre enfant, mais il a répondu « Non, celui-ci est par trop arlequin. » Mademoiselle Desmar, en effet, ne se piquait pas d'une bien exacte fidélité et la porte de son boudoir s'ouvrait à tout venant. On vit de la même façon chez Desmar que chez Fillon, assure une annonce du temps. Mais Philippe ne s'en souciait guère, et la preuve, c'est que dès le lendemain de la rupture définitive, ou la veille, il alla porter son cœur chez une princesse de l'opéra. La danseuse Florence, admirablement belle, adorablement sotte, eut le pouvoir, avec l'aide de quelques-unes de ses amies, retenir quelque temps le futur régent. Elle en eut même un fils, cet abbé de Saint-Albin, favori de madame, le seul des enfants naturels du duc d'Orléans qui eut véritablement un air de famille. Mais il est impossible de suivre, même au vol de la plume, les aventures sans nombre de Philippe, en un temps où, jaloux avant tout de se faire une réputation solide de débauché, il courait de boudoir en boudoir, effeuillant sa vie et son cœur à tous les vents des passions. Mieux vaut tourner brusquement quelques feuillets et arriver au premier, au seul amour probablement du duc d'Orléans. Quoi ? Philippe amoureux ? Hélas, oui. Une fois en sa vie, il subit la loi commune. Sérieusement épris, on crut un instant qu'il allait devenir fidèle. Les beaux yeux de mademoiselle de Séry, la plus gracieuse des filles d'honneur de madame, opérèrent ce miracle. C'était, dit Saint-Simon, une jeune personne de condition, sans aucun bien, jolie, piquante, d'un air vif, mutin, capricieuse et plaisant. Cet air ne tenait que trop ce qu'il promettait. Discret, pour cette fois seulement, le duc d'Orléans entoura d'abord son amour d'un tendre mystère. Il écrivait des billets doux et rimait en secret pour sa belle. Tircis me disait un jour, « Je ne connaîtrai pas l'amour sans vous, Phyllis, je vous le jure, sans vous, Phyllis. Quand on dépeint la beauté, on n'a jamais représenté que vous, Phyllis. » une grossesse malencontreuse vint par malheur révéler les faiblesses de mademoiselle de Séry. Philippe ne l'en aima que davantage. Et comme elle ne pouvait, dans son état, continuer à porter ce titre de demoiselle, il lui fit présent de la terre d'Argenton et, à force d'instance, obtint de Louis XIV, pour son amie, la faveur signalée de s'appeler désormais madame. C'est le beau moment des amours de mademoiselle de Séry, devenue madame d'Argenton. Douce, modeste, bienveillante, toujours disposée à rendre service, elle sut se faire accepter de tous. Autour d'elle, au palais royal, elle s'était fait comme une petite cour de femmes aimables et spirituelles, et Philippe passait presque toutes ses soirées dans ses réunions intimes qui l'animaient et égayaient par son esprit charmant et sa verve facile. Malheureusement pour elle, madame d'Argenton voulut user de son influence sur le duc d'Orléans pour le transformer, pour en faire un homme. Elle réussit à demi, et une bonne partie de l'honneur qu'acquit son amant en Italie et en Espagne lui revient de droit. Ce fut là sa perte. Madame de Maintenon, qui, toute dévouée à la fortune du duc de Maine et des autres bâtards, voyait avec inquiétude grandir la popularité du duc d'Orléans, entreprit de faire renvoyer cette maîtresse dangereuse, assez hardie pour inspirer à son amant de nobles sentiments. Rien n'était impossible à l'élève du père Gobelin. Elle porta au tribunal du roi les plus étranges accusations contre le duc d'Orléans, et les calomnies portèrent si bien leurs fruits que le prince se trouva dans cette alternative cruelle de subir la colère royale ou de renvoyer sa maîtresse. Il hésitait. Le duc de Saint-Simon le décida en lui prouvant que, par ce sacrifice, il désarmait la cour toujours si hostile à sa famille. Le renvoi de madame d'Argenton fut résolu et mademoiselle de la Chausseraie fut chargée d'aller annoncer à l'infortuné cette rupture qui la surprit comme un coup de foudre. Philippe, lui, retourna à la Démare. Il lui fallait une chaîne. La cour battit des mains à la décision du duc d'Orléans, ou du moins fit semblant. Mais le public fut indigné et les chansonniers, les interprètes de l'opinion, commencèrent contre le jeune prince un feu roulant de couplets satiriques. D'Orléans va bien s'amuser avec les maîtres à chanter, et le grand œuvre il pourra faire, l'air là l'en l'air. Quand la série le possédait, mieux des trois quarts il en valait. Maintenant il n'est bon qu'à faire, l'air là l'en l'air. L'épigramme suivante est plus explicite encore. Philippe ayant eu la faiblesse de proscrire la d'Argenton, désormais n'aura pour maîtresse qu'une élève de la Fillon. Il fait succéder à la gloire, la musique et la volupté. On le nommera dans l'histoire le héros de l'oisiveté. Le bon sens public ne se trompait pas. Après le départ de madame d'Argenton, le duc d'Orléans sembla se résigner à ce rôle de prince oisif que lui imposait la volonté du roi et de madame de Maintenon. Renonçant à toute légitime ambition, il reprit avec la Démare ses habitudes décousues et ne sembla plus occupé qu'à soutenir sa réputation de premier débauché du royaume. « Ce sont, messieurs les libertins, gens à bombance, à festin, gros garçons à vaste bedaine, aimant bien gentille fredaine, très malin et joyeux propos, bref, gens tout ronds et point cagot. » C'était Nocé, que madame appelle un diable vert, noir et jaune foncé, Lafare, le duc de Noailles, Breuil, Canillac, Biron, Nancré et bien d'autres encore. En femme, c'étaient toutes les femmes, grandes dames ou filles d'opéra, mesdames de Parabère, d'Averne, de Falaris, de Sabran, la princesse de Léon, Émilie Dupré, madame de Gèvres, la Leroy, madame de Flavacourt, les deux sœurs Souris. La liste n'en finit pas. Toutes les femmes peuvent prétendre à l'honneur des soupers du palais royal. Il ne s'agit que d'être jolie ou spirituelle, de tenir haut son verre, d'être vive à la riposte et de ne jamais rougir. L'égalité la plus absolue existe autour de la table du bon régent. « Là, dit Saint-Simon, dans ces appartements secrets dont on avait fait sortir tous les domestiques quand on avait assez bu, assez dit des ordures à gorge déployée et des impiétés à qui mieux mieux, et que l'ivresse complète avait mis les convives hors d'état de parler et de s'entendre, ceux qui pouvaient encore marcher se retiraient. On emportait les autres, et tous les jours se ressemblaient. Le régent, pendant la première heure de son lever, était encore si appesanti, si offusqué des fumées du vin, qu'on lui aurait fait signer ce qu'on aurait voulu. Si secrètes que fussent ces orgies, il en transpirait toujours quelque chose, et, comme pour fouetter l'indignation publique, Lagrange Chancel donnait libre cours à sa haine et poursuivait ses philippiques que la cour de Sceaux faisait distribuer par tous les moyens et qui, de main en main, arrivaient toujours jusqu'à Philippe d'Orléans. Suis-le dans cet autre caprée, où, non loin des yeux de Paris, tu le vois bien mieux célébré que dans l'île que tu chéris. Vers cet impudique Tibère, conduit Sabran et Parabère, rival sans dissension, et pour achever l'allégresse, mène Priape à la princesse sous la figure de Rion. Vainqueur de l'Inde, dieu d'Eris, soyez les âmes du festin. Faites que tout y renchérisse sur Pétrone et sur l'Arétin. Que plus d'une infâme posture, plus d'un outrage à la nature, excite d'impudique riz, et que chaque digne convive y trace une peinture vive de Capoue et de Sybaris. Dans ces saturnales augustes, mettez au rang de vos égaux et vos gardes les plus robustes et vos esclaves les plus beaux. Que la faveur ni la puissance, la fortune ni la naissance n'y puissent remporter le prix, mais que sur tout autre préside quiconque a la vigueur d'Alcide sous le visage de Paris. Malheureusement, cet effroyable tableau de Lagrange ne s'éloigne point assez de la vérité pour qu'on puisse l'accuser de calomnie, et il explique la colère du peuple qui, plus d'une fois, entoura en tumulte le palais royal ou poussa des cris menaçants sur le passage du régent. « Allô, allô, allô !» hurlait un jour des forcenés qui avaient entouré sa voiture. C'était pour lui comme des avertissements terribles. Mais il n'en tenait compte, pas plus que des avis des médecins, qui chaque jour lui disaient qu'à continuer son genre de vie, il se tuerait infailliblement. Usé par la débauche, excédé de la vie, il se précipitait dans l'orgie avec une fureur qui tenait de la folie. Depuis longtemps, il ne se soutenait plus qu'à force d'excitants mortels, et chaque matin, pour retrouver sa raison et sa lucidité au milieu des vapeurs de l'ivresse, il lui fallait une incroyable énergie. Madame de Parabère, le petit corbeau brun des jours de tendresse, était déjà bien loin. Tandis qu'elle trompait, si tromperie il y a, le régent pour Richelieu, Richelieu pour Nocé, Nocé pour bien d'autres, Philippe avait de son côté cherché des consolations, et les consolations ne lui avaient point fait défaut. Tour à tour, ou simultanément, il aima Madame de Sabran, Madame d'Averne et Madame de Falaris, sans compter le corps de ballet tout entier, les élèves de la Fillon et bien d'autres qu'on vint lui offrir ou qui, seuls, vinrent au-devant de lui. Un souper vit commencer et finir le règne de Madame de Sabran. Elle avait le vin mauvais. C'est elle qui, à une de ces fêtes où s'encanaillait, en compagnie du maître, toute la noblesse de France, se leva chancelante et prononça ce mot terrible « L'âme des princes est faite d'une boue à part, la même qui sert pour l'âme des laquais. » Le régent prit la chose en riant et les blasphèmes continuèrent. Mais Madame de Sabran ne pouvait plus être la maîtresse de Philippe, elle le comprit et se retira, se réservant seulement le rôle d'amie et le droit de présenter les postulantes aux faveurs du régent. Philippe la méprise, mais elle le lui rend bien, et se redressant sous l'injure, « Gare à la mouche, s'écrie-t-elle, qui n'est plus que la mouche du coche, mais qui pique. » Les couplets du temps n'ont point failli à mettre en chanson le triste rôle de Madame de Sabran. Sabran, leste et piquante, conduisait Falaris comme la présidente si célèbre à Paris. Je cherche le régent, voilà bien son affaire, chez le petit Poupon, Dondon. Enfin, il arriva là, 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 mais avec Parabère. Madame d'Averne, livrée par un écou complaisant, n'eut pas sur le régent plus d'empire que toutes les autres, non plus que Madame de Falaris, à qui était réservée cette épouvante de le voir mourir entre ses bras. Le duc d'Orléans était plus malade que jamais lorsque mourut Dubois. Seul, il voulut se charger des affaires, sans pour cela renoncer à ses orgies de chaque nuit. Le fait était trop lourd, il l'écrasa. Sa mort, en tout point, fut digne de sa vie, ce fut presque un suicide. Il avait une apoplexie imminente et ne voulait pas se laisser même saigner. Bien plus, il fit tout ce qui dépendait de lui pour hâter les progrès du mal. Cette mort, qu'il appelait de tous ses voeux, arriva enfin. Le 2 décembre 1723, il venait de donner une audience et passait dans son cabinet lorsqu'il aperçut Madame de Falaris. « Entrez donc, duchesse, lui dit-il, je suis bien aise de vous voir. Vous m'égayerez avec vos contes, j'ai grand mal à la tête. » À peine furent-ils seuls ensemble que le régent, s'affaissant sur lui-même, glissa sur le tapis et resta sans mouvement. La Falaris, effrayée, appela au secours. On accourut. Un laquais essaya vainement de le saigner, il était trop tard. Monsieur le duc d'Orléans, dirent les gazettes étrangères, est mort entre les bras de son confesseur ordinaire. Une chanson ordurière fut son oraison funèbre, et ses épitaphes furent dignes de celles que sa conduite avait values à sa mère. « Sigil oisiveté, mère de tous les vices !»